Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors Mathieu, on est
Merci pour
intéressé.
l'invitation.
Oui, je t'en prie, on est intéressé avec Luc de connaître un peu mieux la situation justement de la Colombie. Quel est le fléau causé par les mines antipersonnelles en Colombie?
Bien, la Colombie, comme vous le savez sans doute, vit un conflit armé interne depuis maintenant 50 ans. Un conflit qui oppose le gouvernement à principalement deux groupes armés, donc les FARC et ELN. Et vous imaginez bien qu'après des décennies d'affrontements, il y a de sérieuses conséquences humanitaires. À titre d'illustration un peu générale, la Colombie a plus de 6 millions de personnes déplacées à l'heure actuelle
6
à
millions.
l'intérieur de ses frontières. Donc, 6 millions, c'est plus ou moins, pour vous donner une idée de l'ampleur, la population du Danemark, d'un pays comme le Danemark.
Oui, ou un peu
Et
moins que le
en ce qui
Québec.
concerne le sujet, donc, voilà. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, la Colombie se trouve malheureusement au triste deuxième rang mondial en termes de nouvelles victimes de mines et de restes explosifs de guerre par jour. Donc, après l'Afghanistan, on compte plus ou moins une nouvelle victime par jour au cours des 10 dernières années. Donc,
Alors,
d'un point de vue statistique, pour vous donner un peu une ampleur de la problématique, la Colombie a plus ou moins 11 000 victimes, 11 000 victimes de mines et de restes explosifs de guerre qui ont été recensées depuis 1990.
très bien,
Et bien
donc
évidemment, c'est une problématique qui...
Ah, excuse-nous, on s'excuse parce qu'on a un petit décalage. On voit bien que tu es en Colombie, il y a un petit décalage entre nous. Donc, Handicap International intervient pour ces victimes dont tu parles. Et puis là, on est en train de développer finalement notre capacité à aller plus loin et à déminer, à nettoyer des territoires en Colombie. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cet aspect-là?
Oui, absolument. Comme la Colombie est entrée dans un processus, actuellement un processus de paix et des dialogues de paix entre le gouvernement et l'armée, il est essentiel que ces territoires dont on parlait maintenant, qui sont contaminés par des mines, soient nettoyés pour, comme vous le mentionnez auparavant, que les populations puissent retourner en toute sécurité dans leur village et dans leur communauté. Handicap International a décidé de s'engager donc sur ce chemin et de commencer un processus complexe d'accréditation auprès des autorités colombiennes afin de déployer des équipes de déminage dans ces zones justement où les populations n'ont plus accès aux services basiques de santé, l'éducation, etc., dû à la présence de mines et autres engins explosifs.
Comment forme-t-on un démineur? Est-ce qu'on doit les importer d'ailleurs ou on peut les former et donner du travail localement?
Non, alors l'idée est de former des gens sur place. Donc dans le cas de Handicap International, les démineurs sont formés, donc seront formés en Colombie. C'est une formation qui est extrêmement rigoureuse et qui respecte des standards internationaux. Donc en général, ce sont des personnes qui viennent des communautés mêmes qui sont affectées, hommes ou femmes. Donc on essaie toujours de maintenir aussi un équilibre de genre. Et la formation de base d'un démineur dure plus ou moins un mois.
Et on apprend quoi typiquement pour que chacun comprenne un petit peu à quoi ça ressemble une journée de type d'un démineur?
Alors, un démineur va être formé dans des techniques de détection de mines, des détections de mines à travers différentes méthodes, avec un détecteur de métal, avec une sorte de sonde qui est une baguette en fer qui permet à la personne qui travaille dans un couloir, puisque chaque démineur va travailler dans un couloir de plus ou moins 1 mètre de large, il va être en charge de nettoyer ce couloir. Il va utiliser différentes méthodes pour détecter un engin. Une fois qu'il détecte un engin, soit avec un détecteur de métal, soit de manière avec une sonde, il doit commencer à creuser de manière extrêmement pour essayer de mettre un peu qu'on voit l'engin explosif. Une fois qu'il l'a découvert partiellement, il doit appeler son chef d'équipe pour que celui-ci vienne, identifie l'engin, Ensuite, le démineur se retire de la ligne et on explose l'engin, on le fait exploser directement sur place.
On peut perdre combien de démineurs, disons, par année, pas juste à Handicap International, mais quand vous m'expliquez le job, ça m'apparaît risqué.
Alors, le job n'est pas risqué en tant que tel, dans la mesure où il existe des standards internationaux extrêmement précis et des protocoles opérationnels, et tout un processus aussi de contrôle de qualité. Donc, les organisations telles que Handicap International qui travaillent dans le domaine du déminage ont bien évidemment des obligations quant à la sécurité et la prise en charge de leur équipe. Donc, il y a peu d'accidents en général. C'est une profession qui est extrêmement réglementée et standardisée au niveau international.
Ouais, je peux confirmer qu'en effet, c'est très rare que les démineurs soient les premières victimes de ces armes, parce qu'en effet, il y a tout un tas de protocoles à respecter. Et puis,
mais lorsqu'on creuse et qu'on défriche un peu là, pour dégager la moitié de l'objet potentiellement dangereux,
On y va très lentement,
je
en fait.
Présume, oui.
En fait, la sonde dont parle Mathieu est une tige comme une aiguille à tricoter, en fait. Et on y va, mais centimètre par centimètre. Mmh. Et justement, Mathieu, quelle est la moyenne de progression? Tu parlais de ce couloir d'un mètre. Mais finalement, un homme ou une femme, sur une journée, il va avancer de combien de mètres
Alors, il s'agit d'un processus extrêmement laborieux qui dépend évidemment des conditions géographiques du terrain, des conditions climatiques, du type d'engin qu'on peut trouver. Mais un démineur progresse extrêmement lentement. Donc, quand il utilise la sonde, il doit avancer de 5 cm en 5 cm. Donc, un démineur pourrait avancer en une journée de maximum 2 mètres, par exemple.
Oh.
C'est effectivement un processus extrêmement lent et laborieux si on veut garantir un nettoyage à 100% des zones.
Et Jérôme, la semaine dernière, vous m'expliquiez que pas de mine un jour ne veut pas nécessairement dire pas de mine toujours.
Ben oui, Mathieu en parlait aussi sur les conditions climatiques. Il faut savoir que dans certains pays qui sont soumis à des grosses périodes de sécheresse et puis après des grosses périodes humides, ben pendant la période de sécheresse, on passe sur le passage, sur le terrain pendant des jours, des mois, il ne se passe rien. Et puis une grosse pluie est venue rendre la terre meuble. Et la prochaine fois que vous passez dessus, la mine est remontée et est redevenue plus accessible. Et là, la mine explose alors que ça fait des mois que vous passiez sans aucun problème au même endroit. Et je pense que c'est
absolument la contamination. Oui, la contamination, comme Jérôme le dit, est dynamique. Donc, elle peut bouger en fonction des conditions climatiques et des éléments.
C'est coûteux, déminer?
Un exemple.
Quel est le coût pour du déminage? Enfin, c'est très coûteux de déminer un terrain.
Absolument. On parle de. Des projets à long terme, ce sont des projets de longue haleine qui coûtent plusieurs millions d'euros sur plusieurs années.
Et donc plusieurs millions de dollars, on s'entend. À titre d'exemple, ça dépend aussi de la maîtrise des techniques et de la maîtrise du terrain. Actuellement, en Mozambique, Handicap International est rendu à un tel point de maîtrise avec des équipes tellement formées qu'on a un coût à peu près de 1 dollar le mètre carré. Mais quand on parle de kilomètres carrés pollués, on peut imaginer
c'est
le coût.
C'est incroyable. Wow. OK. Mathieu, vous êtes là depuis combien de temps, vous? Et vous êtes là pour combien de temps?
Alors, en Colombie, je suis là depuis plus de 5 ans. Avec Handicap, un peu moins de temps.
Et vous souhaitez y rester pour combien de temps? Avez-vous un plan
Écoutez, c'est une problématique tellement importante qui génère tellement de conséquences, comme on le mentionnait auparavant, en termes de mobilité, sécurité, en termes de conséquences humaines. Personnellement, je suis là pour continuer encore plusieurs années.
Et drôle de question, mais comment trouver sa satisfaction en tant que chef de projet des minages quand, à la fin de la semaine, finalement, on a avancé de 10 mètres?
Vous pouvez répéter la question.
Je me disais, comment trouver sa satisfaction? Hein? Souvent, les hommes, on aime réaliser, on aime accomplir, on aime que ça bouge. Et vous, une bonne semaine, c'est quand on a avancé de 10 mètres.
Écoutez, c'est une très bonne question, mais Handicap International, en fait, en particulier en Colombie, travaille dans de nombreux domaines, hein, la réinsertion économique, l'appui à des associations, et aussi maintenant on va entrer dans le déminage. Ça donne une satisfaction énorme de savoir qu'on a pu retirer 10 engins explosifs, 20 engins explosifs, qui ne vont pas tomber dans les mains d'un enfant ou d'une femme ou d'un homme qui va marcher sur l'engin en allant au puits ou en allant à l'école. C'est vraiment un travail extrêmement gratifiant au niveau humain.
Ouais.
Et qui permet vraiment d'améliorer les conditions de vie des gens qui vivent dans ces situations.
Ben, bonne continuité. Vous nous disiez qu'il faisait beau à Bogota. Le maximum aujourd'hui?
Bogota se situe à 2600 mètres d'altitude, donc c'est un peu un climat l'hiver le matin et l'été l'après-midi. Donc à l'heure actuelle, on a 18 degrés.
Ah bon, ben profitez-en. Merci beaucoup Mathieu Laruelle.
Merci Mathieu.
Merci à vous. Merci, au revoir.